Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Au cœur de Tbilissi, la police lance une charge contre les manifestants. Les forces de l'ordre utilisent des canons à eau et des gaz lacrymogènes. Des balles en caoutchouc sont tirées sans avertissement et des dizaines de personnes sont arrêtées et frappées.
Depuis plus d'une semaine, ils sont plusieurs dizaines de milliers de personnes à défiler dans les rues de Tbilissi pour protester contre un projet de loi visant à réprimer les pensées dissidentes. Dans les rangs des manifestants, on peut voir fleurir des drapeaux européens et ukrainiens. Des images qui rappellent celles aperçues déjà l'an dernier au même endroit. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme à écouter sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
La russification de la Géorgie est en cours. Ils tentent d'instaurer une dictature russe en Géorgie. Malheureusement, les législateurs géorgiens participent à ce processus en poursuivant les politiques russes dans le pays depuis des années.
La Géorgie ne cédera pas, pas plus qu'elle ne s'écartera de la voie européenne. Pas de direction russe. Ce gouvernement ne pourra pas adopter cette loi.
Message de manifestants géorgiens sur la RTBF il y a 4 jours. Ils restent encore nombreux à défiler dans les rues, malgré la répression. Au cri de « Nous ne fatiguerons pas, la Géorgie va gagner » et non au gouvernement russe. En cause, un projet de loi sur l'influence étrangère. Bonjour Yves Bourdillon.
Bonjour.
Journaliste au service international des Échos, la Géorgie est de nouveau en ébullition depuis quelques jours. Les manifestants protestent contre un projet de loi sur l'influence étrangère. De quoi s'agit-il ? Que prévoit cette loi ?
Alors, il s'agit d'une loi qui impose que toutes les associations, ONG et médias qui reçoivent plus de 20% de leur financement de l'étranger soient labellisées organisations servant les intérêts d'une puissance étrangère. Alors, c'est au prétexte qui ne dupera que les candides de transparence financière, mais évidemment, c'est un outil qui a été instauré il y a une douzaine d'années en Russie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on la surnomme la loi russe, qui est très efficace pour stigmatiser et perturber le fonctionnement des organisations d'opposition, puisque vous pensez bien que les gens ne vont pas accorder leur confiance à un organisme labellisé « sert les intérêts d'une puissance étrangère ». Ça ouvre aussi des possibilités d'enquête, de persécution. Donc ça verrouille complètement le jeu démocratique et la société civile. On l'a vu en Russie où l'opposition a quasiment disparu. Et c'est évidemment ce que l'on peut craindre en Géorgie.
Ouais, et ces manifestations rappellent d'ailleurs celles qui ont eu lieu il y a un peu plus d'un an.
C'est exactement le même projet qui avait été retiré au dernier moment devant le risque de révolution par le régime. Qui avait dit « Vous nous avez mal compris, on va vous expliquer, puis on reviendra ». Un an plus tard, bon, ils ont surtout préparé le terrain. Ils remettent le même texte avec des changements à peine cosmétiques. Simplement, ils se disent « Là, un an plus tard, on peut passer en force ». Peut-être qu'ils ont préparé tout ce qu'il fallait sur le plan politique et policier pour faire face à ces manifestations.
Et ce texte a été critiqué par l'ONU, les États-Unis et l'Union européenne. Mais l'opposition dans la rue est aussi très forte. Qui sont ces manifestants ?
Eh bien, après un début un peu timide, quand la loi a été présentée le 7 avril, où il y avait des foules de quelques milliers de manifestants, là, brusquement, ils sont passés à la vitesse supérieure, avec une foule qui avait même monté à 100 000, sans doute, jeudi dernier, après un discours très offensif du maître du pays. Donc là, depuis 8 jours, on voit une mobilisation qui est sans équivalent, notamment, déjà, toutes les classes sociales, et pas uniquement, comme c'est assez classique, les classes moyennes ou l'intelligentsia de la capitale, y compris des gens supporters du parti au pouvoir, Georgian Dream, dont les 2/3, selon les sondages, sont opposés à la loi du gouvernement. Donc c'est tous les horizons politiques, avec d'ailleurs des partis politiques d'opposition qui étaient très en retrait au début. C'est surtout la société civile, une centaine d'organisations qui a mobilisé les gens, qui viennent de province, ça c'est nouveau, de toutes les régions du pays, où ils sont hébergés par des amis ou de la famille à Tbilissi. Tbilissi et il y a des boucles WhatsApp considérables qui sont organisées par de plusieurs milliers de personnes pour fédérer et organiser tout ça, suivant une technique qui a été mise au point par le mouvement Otpor en Serbie, il y a 25 ans déjà, qui est la technique des organisations sans chef. C'est-à-dire que les outils numériques permettent d'organiser très rapidement, très efficacement, mais il n'y a pas un leader identifié que le régime pourrait corrompre ou éliminer.
Ce sont des manifestations d'ampleur pour un pays comme la Géorgie ?
Ah ben oui, parce que 100 000 personnes dans un pays de 4 millions d'habitants, imaginez pour la France, ça voudrait dire qu'il y aurait 2 millions de manifestants à Paris, par exemple. Donc c'est tout à fait considérable et c'est plus fort que l'an dernier où ça avait déjà été suffisant pour faire reculer le pouvoir. On se souvient de vidéos, de photos où on était plus très loin de la révolution.
Des milliers de voix chantant devant le Parlement, j'ai pas reconnu la chanson d'ailleurs, vidéo publiée le 5 mai sur Twitter, le week-end a été assez calme à Tbilissi, le temps pour les manifestants de soigner leur plaie Yves.
Un peu parce que d'abord il y a des voyous qu'on surnomme les titouchki, c'est un mot ukrainien, pour parler de voyous payés par le régime pour agresser des manifestants en marge des défilés, et puis tout simplement la police a arrêté plusieurs dizaines de manifestants, certains ont été tabassés, il y a même une photo impressionnante d'un député qui a perdu 4 dents et dont le visage est fracassé, qui s'exprimait à la tribune. Donc il y a la répression et puis surtout les manifestants savent que ça va être un combat de relativement longue durée, il ne faut pas épuiser ses forces en manifestant forcément massivement tous les soirs. Cela dit, le week-end dernier, il y avait la Pâque orthodoxe, donc il y avait des foules immenses devant les églises, devant le Parlement, parce que ça serait aussi une erreur tactique que de complètement laisser tomber. Mais c'est vrai que les jours clés, ça sera le passage du texte de loi en troisième et dernière lecture au Parlement. On pensait initialement que le projet de loi en troisième et dernière lecture passerait le 7 mai. Il a été voté en deuxième lecture le 1er mai. Mais finalement, cette troisième lecture qui sera le moment clé de la crise sans doute, si le Parlement n'est pas pris d'assaut par exemple, ou encerclé par les manifestants, sera plus probablement repoussé d'une semaine vers le 14 ou le 17 mai.
Des affrontements entre manifestants pro-démocratie et policiers ont éclaté mercredi à Tbilissi lors de manifestations contre un projet de loi sur les agents étrangers.
Les manifestations ont été heurtées avec les forces de l'ordre. Dans l'un de vos articles sur leséchos.fr, on peut voir une vidéo de manifestants se défendant contre les canons à eau en faisant une mêlée. Le rugby, c'est aussi notre jeu, commente un universitaire géorgien. Il y a beaucoup de symboles dans les manifestations en cours.
Certainement, cette vidéo-là est d'ailleurs un très beau groupé pénétrant, comme on dit pour les connaisseurs de rugby. Et il y a d'autres symboles, alors à la fois sur le courage des manifestants devant les canons à eau, des jeunes femmes qui se promènent avec des drapeaux géorgiens, ukrainiens, parce que c'est finalement, vis-à-vis d'un projet néo-impérial prêté au Kremlin, c'est une lutte comparable. Des drapeaux bleus à étoiles de l'Union européenne très abondants, comme il y a un an. Et puis, par exemple, il y a une autre photo iconique, c'est une jeune femme qui refait son rouge à lèvres devant un miroir qui n'est autre que le couvercle en plexiglas d'un gendarme. Donc ça montre un peu d'ironie, de détermination, de pacifisme. C'est plutôt des photos qui illustrent des manifestants pour l'instant pacifiques, malgré les canons à eau. Cela dit, il faut reconnaître, en face, à part les titouchki, ça reste pour l'instant du canon à eau, du gaz lacrymogène. Espérons que ça ne franchisse pas un palier.
Le projet de loi émane du parti au pouvoir, c'est le rêve géorgien en français, un parti fondé par Bidzina Ivanishvili. Qui est-il ?
Alors c'est un milliardaire de 68 ans qui a plusieurs particularités assez uniques. Il a 3 passeports, géorgien, russe et français, puisqu'il a une propriété à Saint-Tropez et à Paris depuis 2002. Il a fait fortune dans le commerce des ordinateurs et des téléphones sur les décombres de l'URSS, forcément dans des conditions très opaque parce que c'était le seul moyen de faire fortune, très classiquement. Il a des liens avec Moscou dans les milieux d'affaires et maintenant il a une fortune qui est estimée à 6 milliards de dollars. Alors ça, c'est tout simplement 45% du PIB, du revenu national de son pays. C'est donc un cas sans équivalent au monde. Il peut en gros s'acheter tout ce qu'il veut. Et il vit en Géorgie où il joue un rôle politique puisque après avoir soutenu le leader de la Révolution des Roses en 2003, Mikhail Saakashvili, il l'a trahi et il a fondé son propre parti, Rêve Géorgien, en 2012. pour devenir ensuite Premier ministre. Et puis, étrangement, il a laissé tomber, et parce qu'il a dû estimer qu'il était mieux pour tirer les ficelles dans l'ombre. Donc, il est le véritable maître du pays, mais il n'a aucune fonction officielle. Simplement, c'est quand même lui le patron de la vie politique géorgienne, où il a pris un virage très pro-Kremlin ces derniers jours, alors que jusqu'à présent, il essayait de maintenir un peu un discours ambigu entre Bruxelles et Moscou.
Bidzina Ivanishvili, qui a pris la parole la semaine dernière pour dénoncer, dit-il, les supporters du parti de la guerre. Il s'est exprimé lors d'une contre-manifestation gonflée, selon les correspondants des agences de presse, de fonctionnaires acheminés par bus depuis des régions sous la menace de perdre leur emploi. Yves, la Géorgie, c'est un petit pays du Caucase, grand comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, et coincé entre la Turquie au sud et la Russie au nord. L'influence russe y reste importante ?
Oui, forcément, parce que c'est un pays qui, depuis des siècles, est soumis aux tentatives d'influence de son très puissant voisin. Donc un pays de seulement 4 millions d'habitants qui a préservé son identité très forte, comme l'Arménie voisine d'ailleurs, pendant des siècles. Ils ont leur propre alphabet. Ils ont eu une courte expérience d'indépendance en 1917-1921, étouffée par l'invasion bolchevique, donc russe. Et finalement, ben, comme tout un tas d'autres républiques, ils ont pris leur indépendance à la chute du mur de Berlin. Mais évidemment, ils restent sous une étroite influence dans la vie politique et économique russe, puisque c'est quand même un voisin qui est 30 fois plus peuplé, mais ils essayent quand même, c'est l'enjeu en quelque sorte de la crise actuelle, comme il y a un an, de prendre leur autonomie plus grande. Ils espèrent pouvoir conserver des liens corrects avec la Russie, c'est pas gagné, mais de se tourner surtout vers l'Union européenne.
Ouais, des rapports anciens entre ces deux pays. Puisqu'on parle d'histoire, il y a d'ailleurs un homme politique russe célèbre qui vient de Géorgie.
Oui, Staline, effectivement. Ils ne sont pas tous très fiers de cela. Dans la ville de Gori, où j'avais été d'ailleurs en 2008, peu avant l'invasion de ce pays. D'ailleurs, ça illustre en 2008 l'influence de la Russie. C'est que tout simplement, il y a deux régions russophones, l'Abkhazie et l'Ossétie du Nord, où ben, les indépendantistes ont servi de prétexte à Poutine pour envahir ce pays. Ce qui fait que la Géorgie a la caractéristique unique au monde d'avoir le cinquième de son territoire sous contrôle de l'armée russe.
Pourtant, une partie du pays penche aussi vers l'Occident et notamment vers l'Union européenne.
Oui, la grande majorité, y compris les supporters du parti au pouvoir, qui d'ailleurs a une ligne officielle qui est « nous voulons aller vers l'Union européenne, mais à notre rythme et avec dignité ». Avec dignité peut prêter à sourire. C'est une manière de dire « on ne fera pas n'importe quelle concession, on gardera notre souveraineté ». Alors ce qui, de prime abord, paraît tout à fait légitime. En fait, c'est de la langue de bois pour dire non, on n'ira pas parce qu'on veut conserver des liens politiques étroits avec le Kremlin. En tout cas, il est clair que le régime actuel est prêt à saboter sa marche vers l'Union européenne pour conserver le contrôle très étroit de la vie politique. C'est-à-dire qu'en gros, il pourrait se vivre, finalement, le milliardaire à la tête du pays, se vivrait un peu comme Viktor Orban, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à se rapprocher de l'Union européenne pour le business, mais il ne faut pas faire de la démocratie pour autant, il faut bien verrouiller le jeu politique. Évidemment, la Géorgie a envie de se tourner vers l'Union européenne, mais il faut reconnaître que c'est une situation compliquée parce que déjà sur le plan commercial, les principaux partenaires ne sont pas du tout les pays européens, c'est un cas un peu particulier, c'est surtout la Chine, la Russie, la Turquie, voire l'Ukraine. Donc c'est surtout le projet européen qui fascine les Géorgiens, c'est-à-dire la démocratie, l'état de droit, et donc c'est ça que l'on retrouve d'ailleurs dans ces drapeaux bleus à étoiles qui sont brandis. C'est aussi un système politique qui est vécu comme peu répressif. Donc c'est ça qui attire les Géorgiens.
À l'occasion de la discussion autour de cette loi courant avril, on a assisté à une scène incroyable, une bagarre entre députés dans l'hémicycle au Parlement géorgien. C'est l'illustration d'un pays extrêmement divisé, presque coupé en deux.
Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il est effectivement coupé en deux entre, en gros, les partenaires du parti au pouvoir qui, je crois, doivent représenter à peu près la moitié. C'est difficile à savoir parce que les dernières élections ont été totalement frauduleuses et boycottées en partie par l'opposition. Et il faut reconnaître, l'opposition est assez discréditée. Je parle des partis politique et désunie. Donc, on pourrait dire que le pays est coupé en deux. En revanche, en ce qui concerne cette loi, les sondages montrent une opposition, y compris parmi les deux tiers des partisans du parti au pouvoir. Tout comme d'ailleurs quand on parle des ambiguïtés entre Géorgie à propos de la Russie, par exemple, 90% des Géorgiens soutiennent les Ukrainiens dans leur guerre face à la Russie.
Je ne ressens aucune douleur. Mon œil va guérir, tout va passer. La lutte contre les poutinistes doit continuer.
Les mots de Levan Rabeishvili, président du Mouvement National Uni, principal parti d'opposition, dans une vidéo envoyée depuis l'hôpital où il est apparu avec une tête de boxeur après un combat, l'œil au beurre noir, l'arcade sourcilière fendue, ça démontre aussi la violence de cette répression policière. La lutte contre les poutinistes doit continuer, c'est ce qu'il dit. La Géorgie, c'est un caillou dans la chaussure du Kremlin occupé par sa guerre en Ukraine ?
Clairement, puisque un pays qui essaye de se rapprocher de l'Ouest, c'est forcément un défi pour le Kremlin. Passer à l'Ouest, c'est une formule de la guerre froide. Donc c'est le cas pour la Géorgie. On peut ajouter l'Ukraine, que vous avez mentionné, la Moldavie, même l'Arménie qui a appelé au secours la Russie face à ses menaces d'invasion, aux opérations militaires menées par son ennemi l'Azerbaïdjan. Et la Russie l'a laissé tomber. Donc il y a tout un tas de pays, de l'étranger proche, comme on dit à Moscou, qui veulent se tourner vers l'Ouest. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a un risque non nul d'intervention militaire russe en Géorgie, même si ce n'est pas le scénario le plus probable, mais quand même, parce que la Russie ne peut pas supporter de voir des pays sortir de sa zone d'influence. Et puis en plus, une démocratie, ça donne, c'est un mauvais exemple pour le Kremlin.
Yves, il y a quelques mois, vous vous étiez rendu à Tbilissi pour essayer de cerner comment le pays vivait justement la guerre chez son voisin ukrainien. Quelle était l'ambiance ? Comment est-ce qu'ils vivent ce conflit ?
Alors c'est assez particulier parce que c'est à la fois calme et inquiet. C'est-à-dire inquiet forcément, puisque la Russie occupe déjà un cinquième du pays et de temps en temps, il y a des incursions. Et puis, ils voient bien que l'Ukraine, l'invasion de l'Ukraine, ça fait quand même gamberger. D'ailleurs, 90% des Géorgiens soutiennent les Ukrainiens. Et en même temps, il faut reconnaître, c'est un pays qui est un peu entre deux chaises. C'est-à-dire que c'est une plaque tournante de contournement des sanctions occidentales contre l'Ukraine. Donc d'un côté, vous ne pouvez pas terminer un repas sans qu'il y ait un toast à la gloire de l'Ukraine. Et de l'autre, ces personnes-là, si ça se trouve, font des affaires avec des Russes qui sont nombreux dans le pays. Il y a aussi un fait qui ressort, un consensus pour se rapprocher non seulement de l'Union européenne mais de l'OTAN, parce que tout le monde a constaté sur place qu'aucun soldat russe n'a osé pénétrer un territoire de pays membres de l'Alliance Atlantique. Donc ça, c'est aussi un élément qui fait consensus. Et je termine à propos de l'aspect entre deux chaises, ou du moins des ambiguïtés, la schizophrénie même, c'est que par exemple, la Géorgie n'a plus de relations diplomatiques avec la Russie depuis l'invasion de 2008, et pour autant, c'est le seul pays au monde qui accepte que des Russes puissent venir sans visa pendant un an, et la Russie se trouvait être son principal partenaire économique commercial, alors qu'ils n'ont pas de relations diplomatiques.
Oui, ça c'est aussi un pays qui a une particularité, celle d'accueillir beaucoup de réfugiés ukrainiens, mais aussi, vous le disiez, beaucoup de Russes.
Oui, il y a à peu près 25 000 réfugiés ukrainiens et il y a 150 000 Russes qui ont fui la conscription, la crainte d'être enrôlés de force dans l'armée, et donc avec l'étrange caractéristique que beaucoup d'entre eux soutiennent l'invasion de l'Ukraine par leur pays. Donc, faites ce que je dis, mais pas forcément ce que je fais. Et à côté de cela, ça ne doit pas être facile à vivre tous les jours dans certains quartiers, puisque notamment beaucoup de Géorgiens sont partis combattre en Ukraine. C'est le plus fort contingent de combattants étrangers en Ukraine, 3000 combattants géorgiens, dont une centaine ont été tués. Donc on voit une ambiguïté vis-à-vis de ces Russes qui ont amené, via le contournement des sanctions, toutes les télévisions, les appareils électroménagers qu'on trouve en Russie en ce moment, une bonne partie vient soit du Kazakhstan, soit de la Géorgie, mais aussi ils ont amené un peu d'inflation, là où ils s'installent les prix flambent, puisqu'ils sont venus avec de l'argent, ils montent leur entreprise mais ils n'embauchent que des Russes, donc c'est une situation qui est pas simple. Certains parlent de cinquième colonne.
Alors au moment où l'on parle, le vote en troisième lecture de ce texte de loi n'a pas encore eu lieu. Que peut-il se passer maintenant ?
C'est très incertain. Je dirais qu'il y a quatre scénarios. Déjà, il semble exclu que les manifestants se fatiguent, se lassent. Ils sont très déterminés. À partir de là, donc, il y aura soit le retrait du projet de loi une nouvelle fois, ce qui serait le plus raisonnable, mais malheureusement, le régime a l'air très déterminé. Soit une répression sanglante pour briser la contestation, avec par exemple l'instauration de l'état d'urgence. Troisième scénario, une révolution qui n'est pas à exclure, même si on en est encore loin, et que beaucoup de Géorgiens en ont peur. C'est-à-dire qu'ils veulent le retrait de la loi russe, mais ils ne sont pas prêts pour autant à sauter dans l'inconnu, parce que tout simplement, il n'y a pas de relève, il n'y a pas d'alternative structurée et crédible. Le principal parti d'opposition, le MNU de Mikhaïl Saakachvili, est très discrédité. Et puis, quatrième solution, une espèce d'accord qui serait passé entre le régime et des opposants pour calmer le jeu jusqu'aux législatives du 26 octobre prochain, qui seront tout à fait décisives. Le problème étant que, évidemment, encore faut-il être sûr que ces législatives seraient libres et honnêtes, et ça, c'est absolument pas certain au vu de ce qui se passe en ce moment.
Il y a la personnalité aussi de la présidente qui pourrait mettre son veto éventuellement si la loi était votée.
Alors, c'est une ancienne, elle a la particularité d'être franco-géorgienne, puisque c'est l'ancienne diplomate ambassadrice de France en Géorgie qui est devenue présidente. D'ailleurs, au passage, on peut voir les liens entre la France et ce pays, puisque Ivanishvili parle couramment français, un passeport français, la présidente est franco-géorgienne. Elle est assez ambiguë au passage, même si elle est très 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 bien vue à Paris, parce qu'elle a vécu en France longtemps. Mais en fait, elle se présente, elle a une posture très pro-occidentale, mais c'est plus compliqué que ça. Beaucoup de Géorgiens lui reprochent de jouer un peu sur les deux tableaux. Et cela dit, elle a dit qu'elle mettrait son veto. Donc là, elle sort un peu du bois et elle perd de cette ambiguïté parce que les événements l'obligent. Cela dit, le veto pourrait être surmonté par une majorité qualifiée au Parlement dont dispose le parti au pouvoir. Donc ça risque d'être un baroud d'honneur. La question clé, c'est plutôt que se passera-t-il dans la rue autour du Parlement le jour du vote. Là, ça sera des heures extrêmement tendues.
L'hymne à la joie chanté dans les rues de Tbilissi, il y a un rêve européen en Géorgie, vous nous en parliez, qui rappelle un peu celui de l'Ukraine d'ailleurs. Du point de vue de l'Europe justement, ce rêve est-il accessible, Yves ?
Alors déjà, c'est très impressionnant et assez émouvant d'ailleurs, parce que de voir tous ces gens qui agitent le drapeau européen alors que le projet européen ne fait plus trop rêver à l'Ouest, et on peut d'ailleurs effectivement critiquer certains aspects, la technocratie, est-ce que la diplomatie, est-ce que le projet doit être plus fédéral ou plus souverainiste, c'est tout un tas de questions à l'Ouest que les Géorgiens ne se posent pas. Ils veulent intégrer à la fois l'Union européenne et aussi, ne l'oublions pas, l'OTAN pour des raisons de sécurité. Et c'est vrai à Tbilissi, c'est vrai aussi d'ailleurs à Kiev ou à Chisinau, la capitale de la Moldavie. Mais il reste encore beaucoup de chemin. D'abord, quand même, la fatigue de l'élargissement dans l'Union européenne. Pas sûr qu'à court terme, les 27 aient envie de devenir 28-29 avec des pays qui sont quand même aux confins et puis qui surtout sont toujours sous l'ombre du grand frère russe. Il faudra déjà résoudre la crise entre l'Ukraine et la Russie. Donc c'est un chemin qui est, comme vous dites, est-ce que c'est accessible ? Oui, parce que ce pays a beaucoup d'atouts, mais il reste encore beaucoup à faire. Et puis au passage, ils sont assez nationalistes quand même. Enfin, ils agitent des drapeaux géorgiens. Donc il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. L'intégration à l'Union européenne, c'est aussi des abandons de souveraineté. Et ça, est-ce qu'il y aurait un malentendu là-dessus ? C'est une autre question, mais qui n'apparaîtra que dans une dizaine d'années, quand le projet sera très avancé.
Merci Yves Bourdillon, journaliste au service international des Échos. Vous pouvez retrouver les enquêtes, reportages et analyses du service sur leséchos.fr. Et si vous n'êtes pas abonné, il n'est pas trop tard. Rendez-vous sur le site abonnement.leséchos.fr/la story. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans la description de ce podcast des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varney.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.